RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, c'est parti pour l'After comme tous les lundis. On est ravis de vous retrouver pour deux heures de foot comme tous les lundis. Une page foot européen, évidemment, avec les avis tranchés de nos drôles de dames, nos spécialistes du foot en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, mais également le foot français avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Pierre Ducrot. Salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Vous avez préparé vos avis tranchés?
Oui.
Pierre va nous faire un cri du cœur, je vous le dis. Voilà, on peut le prendre comme ça.
Ah bon. Ouais, carrément. Alors c'est pas que ça m'arrange. Je vais pas mentir, c'est pas que parce que c'est un attaquant du Paris Saint-Germain, c'est parce que c'est un attaquant que j'aime tout court.
Très bien.
Parce qu'il dégage.
Tu vas nous expliquer tout ça. Daniel a mis son costume de psychologue. Spécialiste en choc psychologique.
J'avais pas vu. Ça change pas d'habitude au niveau du costume, mais.
Oui, tu l'as dit pareil. Tu l'as dit. Bon. Voilà. Enfin, un fin psychologue, Daniel. Hein.
Ah bah oui.
On déplaise à certains.
C'est voilà. Sur quoi
voilà. Bah, tu verras.
Suspense.
Mais non, c'est
choc psychologique.
C'est histoire de choc psychologique, comment ça marche.
Vous avez commencé à en parler hier.
Parce que ça marche alors.
Ouais, c'est ça qu'on sait pas vraiment.
On sait pas combien de temps ça marche.
C'est ça.
Dans la durée.
Il y aura également les questions de l'after, les sujets qu'on n'a pas pu aborder, notamment hier ou tout au long du week-end dans l'after. Metz au programme, Lyon, Rennes, Nantes, Nice. On va essayer de parler de tout ça ensemble, donc jusqu'à 23h avant l'arrivée des drôles de dames. Vous avez le hashtag RMC Live, évidemment. Vous avez le 32-16. Vous avez Direct Studio grâce à l'appli RMC Sport. Et puis évidemment, il y a le match de Ligue 2 du lundi soir. Ce soir, c'est un beau match entre Reims, le leader, et Lorient. Mais il n'y a pas de but, Aurélien Tiercin. Salut Aurélien.
Ouais, salut Jean-Louis, salut messieurs. Ouais, c'est un beau match sur le papier, sur le terrain. Un petit peu moins, on s'ennuie ferme depuis le début du match. Mais là, une grosse frappe de Franklin Wadja, le milieu camerounais du FC Lorient. 35 mètres, bien stoppé par Johan Carasso, le gardien remplaçant de Reims, mais titulaire ce soir-là. La bonne sortie de Carasso. Et ça fait toujours 0-0 à 28 minutes de la fin de cette rencontre entre le leader rémois et le FC Lorient de Mickaël Landreau, 6e au classement.
Et on suit un match de la 18e journée de Pro A de basket. Pour l'instant, Bourg-en-Bresse mène 58-49 face à Gravelines Dunkerque. Jingle Ducrot, premier avis tranché du soir.
Pour les gars de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière, ça.
Ouais, mais enfin moi, j'ai pas connu les banquettes en arrière avec Scorpion, quoi.
Et oui, voilà, histoire de bien marquer quand, la quand différence
je pense
de génération.
Quand je pense que mon fils m'a dit, tiens, ce soir, je vais écouter dans mon lit l'after, et que ça commence, ouais. Comme ça, c'est moyen, quand même.
Quel âge il a, ton fils?
Il va avoir 12 ans au mois de mars.
Ah oui, d'accord.
Ouais, non, ça fait un peu jeune pour les banquettes arrière. Je lui passe le bonsoir, et si tu peux t'endormir tranquillement, Raphaël, merci.
Voilà. Très beau prénom. Alors, Pierre, tu vas nous parler donc d'Edinson Cavani, qui est rentré dans l'histoire du PSG ce week-end.
Oui, voilà, c'est ce qui m'a donné envie, ou ce qui a déclenché mon avis plutôt, mais on aurait pu le faire sans ce record, surtout qu'il a été bien dépouillé un peu par tous les médias, voilà, est-ce qu'il a marqué de la fesse gauche, de la fesse droite, combien de buts, comment les passeurs, etc., etc. Moi, j'avais envie de m'attarder sur le phénomène Cavani. Quand je dis phénomène, c'est parce que j'ai l'impression, ou en tout cas la sensation aujourd'hui, que Cavani est autre chose qu'un simple attaquant, ou un simple buteur, même si les stats sont énormes. Il est peut-être en train de prendre une part à part, une place à part, pardon, dans le cœur des supporters parisiens, et à juste titre pour moi. Et quand je parle de place à part, c'est peut-être qu'il est en train de doubler ceux qui étaient les idoles du Parc des Princes à leur époque. Voilà, on peut penser à Rai, on peut penser à Pauleta, on peut penser à des joueurs comme ça, même plus anciens pour d'autres. Alors, je prends toujours des pincettes pour comparer, parce que c'est toujours ces différentes époques, ces différents coéquipiers, ces différents contextes. Mais je crois que Cavani a quelque chose en plus. De ces joueurs-là, ils représentent pour moi tout l'opposé de ce qu'est le football aujourd'hui, ce star système un petit peu. Voilà, on vit avec, on en parle tous les jours, il y a pas de souci, on va pas renier ce football-là, mais on aime bien aussi les belles histoires. Daniel se plaît souvent à le dire, et Edinson Cavani pour moi en est une de belles histoires. Alors sur le terrain et en dehors, sur le terrain parce que c'est un attaquant, c'est un numéro 9 qui marque quasiment plus que presque tous les attaquants d'Europe, voire peut-être ailleurs. Si il faudrait vérifier, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas en Europe, c'est sûr. C'est un attaquant, un numéro 9 qui s'arrache, qui défend, qui cavale plus que tous les autres numéro 9 d'Europe. J'en vois pas un qui a envie de le faire autant. Et s'il y en avait un qui avait envie, j'en vois pas un qui est capable de le faire. Voilà, avec le coffre suffisant, avec les qualités foncières pour le faire, athlétique. Il dégage aussi sur le terrain ce qu'on aime chez tous les joueurs, logiquement, mais qui est très très rare à ce poste-là, parce que c'est un poste qui nécessite souvent une dose d'égoïsme qui est quasiment obligatoire, ou en tout cas un peu nécessaire. Lui n'en a pas, il est que généreux, il a ce sens du collectif, du sacrifice. Il l'a fait maintes et maintes fois pendant des matchs, il l'a fait sur une saison même, quand il jouait aux côtés d'Ibra, où il a été sacrifié sur un côté, et il a continué, il a rien dit. Pour moi, il dégage tout ça. En dehors du terrain, il dégage, on est tous d'accord, cette simplicité, cette générosité, cette gentillesse, naturellement. Voilà, il y a rien de forcé, il y a rien de préparé. On écoute son message aujourd'hui pour remercier les supporters et tous les autres artisans à son record. Il le fait chez lui, assis à une table. C'est presque trop simple, quoi. N'importe quel joueur de cette trempe aurait un petit peu.
En fait, le décalage avec le monde du foot le rend attachant, en fait.
Ouais, c'est ça. Ça le rend attachant, mais ça le rend surtout accessible, je pense. Même pour les supporters. Et quand je dis supporters, c'est pas ceux qui insultent dès le premier tweet. Hein. C'est des vrais supporters qui connaissent leur club, qui connaissent l'histoire de leur club, qui veulent la suivre, qui veulent s'y attacher. Cavani est accessible, pas parce qu'on va aller parler avec lui quand on est supporter du PSG pendant 3 heures. C'est peut-être pas possible. On peut pas. Mais en tout cas, on peut s'identifier à lui. On a envie de s'identifier à lui. Et ça. Peut-être qu'un jour le PSG va gagner une Ligue des Champions avec des joueurs comme Neymar, comme Mbappé ou d'autres avec des talents de folie. Mais le PSG doit aussi garder Cavani très longtemps, ou en tout cas beaucoup plus longtemps que la fin de saison, parce qu'il dégage quelque chose et il représente quelque chose. Je sais pas si on peut dire d'aussi important qu'une Ligue des Champions, mais peut-être, en tout cas pour beaucoup, c'est ce lien avec l'histoire et avec l'histoire du club et avec les supporters. Si Neymar, et certains disent que Neymar est essentiel au développement d'une Ligue 1 partout dans le monde, moi je dirais que Cavani est essentiel pour que nous ici, Français, parce que je pense que Cavani est aimé pas uniquement par les supporters du PSG, mais par beaucoup beaucoup de gens qui aiment le football. Il est essentiel pour nous ici en Ligue 1 pour continuer à kiffer le foot. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire.
Daniel, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, je suis forcément d'accord parce que j'ai toujours adoré ce joueur qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre en France. Il était connu en Italie et là-bas tout le monde savait que c'était un grand buteur parce que d'abord les chiffres parlaient pour lui. Moi qui suis pas fan des stats, il y a quand même des chiffres qui parfois parlent. Il ne suffit pas de tout le temps jeter les chiffres à la poubelle parce qu'ils ne veulent rien dire. Et quand t'es attaquant, quand t'es numéro 9... souvent ça veut dire quelque chose tant qu'il est but. Après, à l'intérieur de ces chiffres-là, tu peux également aller étudier de plus près. Est-ce que t'es un buteur qui met le premier but ou le troisième quand il y a déjà 2-0? Ça aussi, c'est des stats qui peuvent m'intéresser. Quel genre de match? Et là, Cavani est également très bien placé dans ces stats-là. Alors je disais qu'on a eu du mal à le comprendre parce que effectivement il y a eu la tendance récente dans le football à l'attaquant seul devant, capable de dribbler, capable artiste. De partir dans des rushs. Évidemment c'est
utile au jeu. Utile au jeu.
Ouais, puis qu'il y a qu'à ce côté artistique aussi.
Je suis d'accord, parce que Cavani est très utile au jeu par dribbler, son premier pressing, très très utile au jeu.
Moins dans la construction alors peut-être. Dans la construction du jeu.
C'est plus dans le style dont tu parles.
Style, parce que quand t'es le premier défenseur et que tu travailles autant, t'es également utile à la construction parce que tu aides à la récupération. Donc là encore, c'est pas complètement juste de dire ça. Non, le style en fait qui est arrivé à un moment à la fin des années 90 avec Ronaldo, le vrai Ronaldo.
C'est un peu nouveau,
attaquant capable de
d'éliminer quoi.
Enfin, ça reste, je pense à ce jour. Le meilleur de tous les temps, peut-être, avec Van Basten, il y a le débat entre les deux, mais lui, il a ouvert une nouvelle brèche, donc après, dans laquelle on a pu voir, au niveau français, parce qu'il s'est révélé ici, mais des mecs comme Drogba, capable de jouer seul devant, même s'il avait évidemment moins de technique que Ronaldo.
Thierry Henry,
ce genre de gens-là, capable de faire plein de trucs. Et puis on avait oublié que numéro 9, c'est aussi le mec qui va enquiller les buts et qui va travailler différemment. Cavani, c'est vrai que parfois, et notamment quand il est arrivé et qu'il n'était pas à sa place, il pouvait être exaspérant dans un match. Je me souviens d'un...
Ah, il pouvait rater le plus facile, comme il pouvait
parce qu'il travaillait comme un dingue à courir sur le côté et qu'il s'est sacrifié pour l'équipe pendant des mois sans rien dire. Si ce n'est quand il revenait en retard, et c'est vrai que c'était une habitude, qu'on le sait, en tout cas ceux qui le savent, c'est dû à son problème familial et ce qui l'empêche de voir ses enfants. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et Cavani, oui, cette difficulté qu'on a eu à le comprendre, bah, petit à petit, ça s'est estompé. Mais j'ai toujours trouvé injuste que finalement on veuille pas reconnaître que mettre des buts et avoir le dernier geste d'une action, ce soit ça fasse partie et que ce soit compris comme un grand geste technique. Parce qu'on lui reprochait, on lui reprochait parfois de ne pas être à l'aise techniquement. Ce qui peut être vrai quand il est loin du but au moment de faire une passe ou un dribble.
Bah, il jouait sur un côté.
Mais non, mais même en tant que neuf, parfois il a des gestes techniques qui sont
sur des remises,
qui
sont
un peu ébouriffants. Ah, oui. Mais le dernier geste, celui qui consiste à pousser au fond, c'est un grand geste technique.
La technique au poste,
et ça, il faut avoir parlé.
C'est un des meilleurs.
Et tu l'as fait certainement plus que moi, mais j'ai eu la chance de le faire aussi. Parler à des vrais attaquants, à des numéros neuf, c'est un rôle à part. Et le geste final d'une action, c'est quelque chose qui est finalement beaucoup plus élaboré qu'on le pense.
Bien sûr.
Sinon. Si cette tendance aurait effacé tout le reste, cette tendance au changement de l'appréciation de ce qu'est un neuf, ça voudrait dire quoi? Que des mecs comme Carlos Bianchi, Delio Onis n'étaient en fait que des cutards dans la surface qui étaient là pour pousser la balle.
Exactement.
Sans qu'on sache, ou Paoletta plus récemment, sans qu'on sache ce que c'est que un appel, un placement,
le duel
permanent avec le défenseur pour savoir comment te positionner par rapport à lui, la lutte psychologique, se faire oublier, tout ce travail-là. Qui, il est vrai, on n'explique jamais.
Non.
Moi, j'ai eu la chance d'en parler une fois avec Paoletta très longuement. Mais franchement, j'ai pas dit un mot. J'écoutais ce qu'il disait. Je ne savais pas.
Les mecs jouent 90 minutes. Pendant 90 minutes, ils sont actifs et ils ont peut-être 45 secondes de temps effectif avec la balle.
Il expliquait que quand le ballon était encore dans son camp, lui, il était capable d'élaborer déjà 3-4 schémas. Ouais. Par lesquels les ballons pourraient éventuellement lui arriver dessus. Ouais. Et en fonction de ces schémas qu'il avait préparés alors que le ballon était encore à 60 mètres de lui, il pensait déjà à son positionnement, et il regardait déjà où était le défenseur. Ça c'est un
vrai neuf. On a eu le même genre de discussion, pas avec les mêmes attaquants, mais effectivement, et c'est extraordinaire quand tu les écoutes.
Et Cavani,
mais Daniel, tu disais, on a eu du mal à le comprendre. Il y a aussi quand même le positionnement qui a joué beaucoup. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, j'ai dit Cavani, il marque en une touche de balle. Mais c'était pas un reproche sur ses qualités techniques, c'était un constat sur son positionnement. Mais à partir du moment où il est sur le côté, il doit contrôler le ballon un peu plus, et forcément, il est moins à l'aise que quand il est dans sa position idéale. Et c'est pour ça aussi, à mon avis, qu'on l'a mal compris au début. Mais on a été à contre-emploi, même s'il était utile à l'équipe, il était à contre-emploi.
T'as raison. Par contre, là où on a été très très idiots tous, en tout cas tous ceux qui ont condamné un petit peu Cavani au départ, ou qui ont eu du mal peut-être à le comprendre, c'est qu'on n'a pas su voir justement ce que ça dégageait. Qui aurait accepté d'être acheté 64 millions d'euros, d'être normalement la tête de proue de l'équipe,
et de pas jouer
et de jouer sur un côté quand t'es numéro 9, pur numéro 9, après, et que t'as planté pendant des années avant, quoi.
Après, franchement,
personne, mais lui il l'a fait.
Mais Pierre, il y a toujours un truc moi qui m'épate dans les appréciations d'ensemble qu'on a comme ça et dans certains débats. Moi je dis toujours, et on me dit ouais, quand tu dis ça on ne croit pas et tout, mais je dis toujours que à tous ceux qui pensent que j'en rajoute des caisses quand je parle, mais avant de parler, moi, j'écoute vachement ce que disent les autres et je lis énormément ce qui se dit. Cavani, il suffisait de lire, quoi.
Ouais.
Tous les gens qu'il avait approchés, ses entraîneurs, tous ses coéquipiers, tous étaient admiratifs de ce qu'il faisait.
Et même les anciens attaquants, quand ils te parlent de ses appels.
Donc quand il y a une unanimité, quand il y a des débats, toi, tu dis bon, ok, tu te mets un petit peu dans le débat et puis tu dis bon, ok, mais quand t'as une unanimité à dire le mec est bon, et là en l'occurrence Blanc le répétait sans arrêt, tous les mecs en Italie le disaient sans arrêt, je me suis dit, mais il n'y a pas de faille.
Ah, puis il n'y a pas de faille,
essaye de comprendre pourquoi tout le monde dit ça. Alors, ils ne peuvent pas tous se tromper.
Il y a ça, ceux qui ont vécu avec lui, et puis il y avait aussi les images que nous on voyait, quoi. Et je suis désolé, même les matchs où il a été un peu moins bien, c'est un mec qui a jamais triché. J'ai pas vu un seul match de Cavani où il trichait.
L'ode à Cavani, moi je la partage, pas de souci, mais quand même Pierre, si on te laisse le choix entre Neymar et Cavani.
C'est un choix très dur, mais pour plusieurs raisons, moi je choisis Cavani.
Dans la construction d'un projet, si tu dois choisir
entre les deux.
T'as besoin des deux pour construire un grand projet comme celui du PSG aujourd'hui ou d'un club européen qui veut accéder à la Ligue des Champions.
Mais ça, t'as besoin des deux. La question, c'est l'un ou l'autre.
Voilà, si tu veux mettre un peu la zizanie, t'en veux qu'un des deux.
Évidemment qu'a priori, si c'est un projet et dans le football d'aujourd'hui business, vaut mieux que t'aies Neymar, oui. Et
puis on va dire oui ou non pour des raisons différentes.
Il est dans une autre forme de dimension, mais bon, moi, j'aime pas trop ces choix. Et je voudrais terminer juste sur un truc. Je pense que Cavani, a un peu divisé à un moment, et je trouve curieux comment, enfin pas curieux, mais notable, que en un an, il a tout fait basculer en deux images. La première, c'est son but dans la déroute de Barcelone, parce qu'il est ressorti le seul joueur vaillant de cette déroute, le seul digne.
À son image.
Et la deuxième, c'est le coup franc au Vélodrome.
Ouais.
Alors Neymar s'est fait expulser. On est en train de perdre le match contre Marseille qu'il faut pas perdre et tous les autres n'ont pas été à la hauteur. Et lui, alors qu'il aurait jamais dû tirer ce coup franc si Neymar était là, a pris le ballon, a dit ok, j'égalise. Et c'est marrant comme des fois à peu de choses, la symbolique, la symbolique va jouer dans la tête des supporters. Et Cavani ajoute encore une chose, un élément. Je sais pas, ça, on a souvent fait ce genre de truc là, Jean-Louis, dans les soirs d'after où on a deux heures, on a du temps. Quel est les joueurs qui, dans l'histoire d'un club, alors que t'es ennemi de ce club-là, par exemple, si t'es Marseillais, tu regardes le PSG,
quel joueur
tu as envie et tu peux prendre? Souvent, les Marseillais ont souvent dit que Paoletta, il l'admirait malgré tout, même si c'était un Parisien. Et je suis sûr qu'ils ont le même avis. Oui. Pour Cavani. Oui, comme je sais pas moi aujourd'hui.
Dienzo aussi.
Comme des supporters parisiens aujourd'hui voudraient bien Gustavo.
Exactement. Pareil. Oui, tu le regardes en disant lui, alors que je suis sûr que, alors qu'il y a d'autres joueurs très très bons que jamais il ne voudrait.
Si je peux rajouter 30 secondes.
Mais ça marche avec Lyon. Ça marche avec Lyon. C'est un jeu qui est très intéressant.
Vas-y,
à faire.
Mais après, je voudrais qu'on donne la parole à Yacine.
Tu fais ça avec tous les supporters rivaux. Tu regardes le mec que tu peux prendre. Alors, des fois, il y a des mecs qui sont énormes, mais tu les veux pas.
C'est un bon repère.
Mais tu les veux pas. Mais il y en a d'autres. Tu le veux quand même s'il est dans ton club.
Et 30 secondes, je suis d'accord avec les deux images de Cavani que Daniel évoque. J'en rajouterai une troisième, mais qui est peut-être un peu trop fraîche, mais avec le recul, on l'aura. C'est ce penalty encore ce week-end où normalement Cavani doit le frapper. Il a le ballon dans les mains parce que l'histoire est bien faite. C'est lui qui l'a dans les mains comme par hasard. Ça aurait pu être un autre joueur. C'est lui qui l'a dans les mains. Mmh. Il le donne très rapidement à Neymar. Mais il le donne pas avec un geste en trop ou un geste superflu pour dire tiens moi je suis grand et toi t'as été petit parce que tu me l'as pas donné, moi je te le donne, mais c'était juste pour faire taire tout le monde, juste pour dire moi je suis là pour gagner avec lui, donc on est tous ensemble et on y va. Et ça, c'est pour moi un parfait résumé du garçon.
Yacine nous rejoint au 32-16, supporter du PSG. Alors au 32-16, il y a que des pros Cavani hein, là forcément le débat
là, c'est un peu compliqué,
moins en moins
débat.
Salut Yacine.
Bonsoir tout le monde.
Salut Yacine.
Bonsoir. Je voulais juste faire une petite parenthèse de 10 secondes avant d'entamer ce passionnant sujet. Je rejoins Daniel sur ce qu'il avait dit par rapport à un certain grand journal national qui tente une campagne de déstabilisation et qui avait dézingué Cavani. Que ces gens-là aient une carte de presse et qu'ils aient une aussi grande crédibilité qu'ils sont relayés après par l'opinion générale. Voilà, c'était un coup de gueule parce que
ton message est passé, Yacine. Voilà. On va pas refaire le débat, c'est vendredi.
Oui, bien sûr. Alors après, pour en venir sur Cavani, bien sûr. De toute façon, comment ne pas être admiratif. Il y a deux ans, on disait que c'était une chèvre, qu'il devait fermer sa gueule, qu'Ibra c'était le patron, qu'on savait pas ce qu'il faisait foutre là, ce qu'il foutait à Paris, c'était pas un grand joueur. Bon bah les gens qui connaissaient pas trop le football ont appris au fur et à mesure, et quoi que maintenant on dit qu'il fait la limité, je suis pas si sûr, parce qu'aujourd'hui, comme de la mode c'est la culture FIFA, il serait capable de dire qu'aujourd'hui je dis un exemple bête, mais Cavani pour eux c'est pas un grand attaquant, parce que il manque
parce
d'élégance.
Parce que c'est pas faire de roulette ou pas faire
Parce que voilà, c'est la mode FIFA quoi, donc ceux qui ont très peu de matière grise. Et Cavani, moi son accomplissement, je pense que ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait qu'il soit soulier d'or européen. Je pense que ça, ce serait une grosse récompense, meilleur buteur européen. Ça va être un petit peu compliqué parce que Kane est légèrement devant, mais ce serait franchement, je pense, un très bel accomplissement pour lui, parce qu'il le mérite. En plus, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes passions que tout le monde. Il est passionné d'ornithologie, c'est quelqu'un de très discret.
Par la pêche.
Mais il a toujours la niaque, il a toujours le sourire. Et puis il a mis tout le monde d'accord avec Neymar, il fait en sorte que ça se passe bien. Voilà, on cherche des petites polémiques, de toute façon il faut vendre du poplar, comment ne pas être admiratif. Pour moi, il est supérieur à Suarez et Kane dans son volume de jeu. Il défend beaucoup plus Kane, il peut pas faire le travail défensif que fait Cavani, Suarez non plus. Et puis on dit que c'est un manchot au niveau technique. Moi je suis désolé, quand on cavale autant que lui, c'est normal qu'on gâche une ou deux occasions. Mais moi je me rappelle de son premier but, je sais pas si vous vous souvenez, c'était contre Ajaccio.
Bastien, non.
Le contrôle orienté qu'il fait et la frappe pied gauche en pleine lucarne, ça mettait tout de suite dans le ton, quoi. On savait qu'on avait là un grand attaquant.
Ok, Yacine.
Voilà.
Bah écoute, merci.
Ce qui ferait plaisir, Yacine, c'est le soulier d'or. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de voir Cavani avec le brassard de capitaine au PSG un jour.
Ah oui, aussi.
Je trouve que ce mec-là emmène tout le monde avec lui et que ce serait juste, juste mérité, quoi.
Et Yacine, le jeu du je prends un mec dans l'équipe que je déteste.
Ah, à l'OM.
Bah, ouais. Je sais pas quelle est l'équipe que tu n'aimes pas.
Non, Luis Gustavo, je prends. Mmh. Forcément, comment dire.
Et un mec qui est très bon à l'OM, mais que malgré tout tu veux pas, parce qu'il est trop OM.
Non, Benjamin Mendy, j'aurais bien aimé. Mais là, à l'heure actuelle, pour ce qui dégage, tu me parles de l'époque actuelle ou
oui, oui,
de l'époque actuelle.
Maintenant,
ouais.
Maintenant, Luis Gustavo, ouais.
Bah oui.
Okay. Gustavo, bien sûr.
Yacine, merci. À bientôt dans l'after.
Ciao.
Alors effectivement, le jeu fonctionne bien. On a quelques messages sur le hashtag RMC Live, notamment un tweet de Luis Dieu Gustavo. Donc a priori, il est fan de Luis Gustavo. Il dit effectivement, Cavani, c'est mon joueur préféré au PSG. Toi, tu prendrais qui à Toulouse, puisqu'on parle d'équipe que tu n'étais.
Mais je déteste pas Toulouse, moi. Non, mais fais ça selon les époques. C'est assez drôle. C'est les gars que même s'ils étaient énormes, t'en aurais jamais voulu parce qu'ils étaient beaucoup trop marqués. Club d'en face.
Parce qu'il y a un caractère qui te correspond pas aussi. Ou des tout à fait. Ouais,
et c'est les Marseillais mecs... qui auraient cité Pierre à l'époque.
Et les mecs, alors je encore plus poussé parce que ça c'est un peu de l'autoflagellation. Mec qui était dans ton club mais que tu sais ne correspondait pas forcément à ton club mais plus à ton club ennemi. Ah, ah ça c'est de l'autoflagellation,
c'est genre ça mérite de la réflexion là quand même. Ouais, faut chercher
genre
là.
Quoi genre la Sanadira quand il était à Marseille.
Ben quoi?
Je sais pas, il a dit j'ai grandi à Paris, etc.
Moi, j'ai une théorie sur le PSG-OM que le PSG est plus brésilien et l'OM plus Argentine. Dans le caractère et la façon d'être et le jeu.
Oui. Complètement.
Le PSG a un côté, si on caricature.
Un petit côté plus aristocrate.
Et l'OM
dans
plus
ce
baston.
Qui brille et.
Voilà. Le PSG, c'est plus étoiles qui brillent, même qui parfois peuvent être agaçants, un peu à chouiner.
C'est plus Rai, frère de Socrates. Et
voilà, c'est ça.
Et Marseille, c'est plus Ainsleux, par exemple.
Ainsleux a été adoré au PSG, mais je pense que son profil était plus OM.
Écoute, je pense que...
Ça peut être dur en temps pour les supporters du PSG, mais il y a des personnalités. Moi, j'aime bien qu'il y ait des choses comme ça.
Non, parce que ça correspond à l'ADN un peu du club aussi.
Je trouve que Pierre était très brésilien.
Mais lui, c'est un enfant du PSG.
But à Reims, Reims-Lorient, la Ligue 2, Aurélien Tiersin.
Ouais, c'est une surprise. Le but de Lorient à la 81e minute. Le but de Steven Moreira sur une belle ouverture de Fabien Lemoine. Moreira qui vient tromper d'un plat du pied assuré. Johan Carasso. Et ça fait 1-0 pour les Merlus de Mika Landreau. Et c'est une surprise après 7 victoires consécutives de Reims et un pénalty raté par Jordan Siebatcheux. Et les Merlus sont donc devant à 8 minutes de la fin du match. 1-0 pour Lorient à Reims.
Merci Aurélien. Des infos PSG puisqu'on était sur Cavani. Info de Mohamed Bouafsi, sauf gros retournement de situation. Lucas va s'engager avec Tottenham. Visite médicale demain. On parle d'un transfert autour de 28,5 millions d'euros pour un contrat de 4,5 ans. Autre info.
Lucas qui hier soir jouait au poker.
Ah oui,
parce que nous dans le RMC Poker Show nous suivons l'actualité.
Oh, il a le droit.
Bah, avec évidemment, Neymar. Je suis pas en train de dire qu'il a pas le droit. Bien au contraire, le poker, ce mec, c'est une activité saine. Il joue avec Neymar. Neymar est un très très bon joueur de poker.
C'est sain. Ça fait finir tard quand même.
Bah ça fait finir tard, mais c'est sain.
Ouais, t'es assis. Si t'as pas trop d'alcool sur la table. Voilà.
Non, il y avait grosse partie de poker hier. De toute façon, c'est pas privé puisque c'était rendu public sur Instagram. Ouais. Donc les mecs,
c'est mieux de passer une soirée chez ton pote.
Et nous, ça nous a fait marrer parce que
très bien. Dans le RMC Poker Show, vous en avez parlé.
On en a parlé. Ouais.
Le groupe du PSG pour demain face à Rennes en demi-finale de Coupe de la Ligue. Lassana Diarra et Mbappé dans le groupe. Alors Lassana Diarra, Unai Emery a bien dit qu'il devait travailler physiquement, mais il sera bien dans le groupe. En revanche, Thiago Motta et Thiago Silva sont forfaits. Bon, Thiago Motta, j'ai l'impression qu'on dit ça avant chaque match qu'il est forfait. Et concernant Lassana Diarra, également une petite info, c'est lui qui a proposé de faire partie du groupe, donc à Unai Emery. Emery qui a dit aujourd'hui, je compte sur Pastore, on ne veut pas s'en séparer, alors qu'il a redit en zone d'interview après le match de Montpellier qu'il voulait jouer la Coupe du Monde et qu'il avait bien compris que pour jouer la Coupe du Monde, il fallait quitter le PSG. Mais Emery a dit, on a besoin de lui, quand il est à 100% physiquement, c'est un joueur exceptionnel. Voilà pour les infos PSG du moment.
Et parce que tu parlais de PSG et Rennes, j'ai adoré, petite parenthèse, j'ai adoré le message
message d'Olivier Létang.
Qui... Ah oui, bah, ce sera une question de l'after.
Ah, alors je me tais.
Sur le club à réveiller, etc.
Ah ouais.
Alors on le
parce que
tout
c'est tout ce qu'on pense depuis des années.
Eh bah, ben, tu le diras tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure.
74-72, c'est le score pour Bourg-en-Bresse face à Gravelines-Dunkerque. C'est le match de proie du soir. Et je vous rappelle donc que Lorient mène 1-0 à Reims. Dans un instant, l'avis tranché de Daniel Riolo sur les fameux chocs psychologiques en Ligue 1 quand on change d'entraîneur. Décryptage à venir et à ne pas rater dans l'after. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot dans l'after, comme tous les lundis, nos drôles de dames seront là dans une demi-heure avec de la cup au programme. Philippe Auclair veut faire son avis tranché là-dessus. Et puis Fred Hermel nous parlera de Leganés, un des clubs révélation en Espagne cette année. Et il a un lien à faire avec les clubs français. Il y aura également les questions de l'after dans quelques minutes. On parlera de Metz, de la bataille pour la cinquième place. Et oui, il y a même un enjeu dans cette bataille pour la cinquième place. Et puis Lyon-Rennes, donc Pierre veut en parler. Ce sera tout à l'heure. Petite sensation en Ligue 2 puisque le leader est en train de tomber à domicile. Reims-Lorient, Aurélien Tiercin.
Ouais, difficile pour les Rémois. 1-0 pour le FC Lorient. Une grosse minute encore à jouer dans le temps réglementaire. Un but signé Steven Moreira à la 81e. Encore exactement 1 minute et 5 secondes à jouer le stade de Reims qui court après donc l'égalisation. 1-0 pour Lorient ici à Delaune.
C'est l'heure de la vie tranchée.
Ah pardon.
Oui.
Non, j'allais enchaîner. J'allais dire que ça a moins de conséquences pour Reims qui est largement, oui, largement en avance. Par contre, c'est trois points importants pour Lorient dans la course à la seconde place. Ouais.
Lorient, c'est quand même en train de marcher pas mal. Hein.
Je crois ils étaient sur trois matchs. Sixième avec 40 points. Le deuxième, c'est Nîmes avec 43 points. C'est tout est très serré.
Ouais, c'est ça, exactement.
T'as le PFC, t'as Ajaccio, t'as le Havre, t'as Lorient.
Avis tranché de Daniel Riolo, on y va.
On peut se livrer à une séance d'onanisme sacralisé toute la nuit sur Benzema. Si t'as envie, on peut tous s'y mettre. On peut se mettre debout sur la table, pantalon baissé. Mais j'en ai pas envie.
Non, mais tu as envie de quoi ce soir?
On peut, mais il veut pas, en fait.
Non, mais c'est pas, choc psychologique. Non. Je vais pas faire une séance de psy. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai revu un film ce week-end, j'avais pas vu depuis des années, mais c'est super drôle. J'avais complètement oublié ce film, c'est Mafia Blues.
Ah,
vous vous souvenez de ce film?
Oui, carrément.
Super drôle.
Carrément.
J'ai complètement oublié. C'est super drôle. Carrément. Voilà, c'est peut-être de là que c'est.
Très bien. Comment il s'appelle, l'acteur?
Le côté petit.
Bouclé, là.
Il y avait Billy Crystal, De Niro, les rôles principaux. Très, très bon film. Le choc psychologique, parce qu'on en a parlé, l'effet Poyet, et tu disais à quel point, Pierre, ça t'agaçait, de voir que un nouvel entraîneur arrive et, certains mecs, d'un coup se mettent à jouer ou retrouvent une bonne attitude, retrouvent un bon état d'esprit. On a du mal à savoir si réellement le nouveau coach est la conséquence de ce nouveau mouvement. Probablement qu'il y a comme l'idée que à cause de nous, le coach s'est fait dégager, on va essayer de se remuer parce que le premier fusible a sauté, donc maintenant on va s'y mettre. Il est un petit peu tôt, j'imagine, pour savoir ce que va faire Gustavo Poyet. On imagine que pour l'instant, il a surtout parlé aux mecs et qu'il les a un peu remués et que peut-être le fait d'avoir un accent différent, voire des mots en étranger, ça a donné un peu plus de légitimité puisque les joueurs français, c'est la tendance maintenant, ont tous envie d'un coach étranger. Mais pour ça, on va attendre un petit peu avant d'en être sûr. Mais ce qui m'a intéressé, c'est plus de savoir comment t'en arrives à un bordel pareil comme il y a eu à Bordeaux pour qu'au final, tu te retrouves avec un coach que très peu connaissait, on se souvenait surtout du joueur, et te dire, tiens, c'est peut-être lui qui va nous sauver. Ça a commencé quand même cet été. Bordeaux avait un peu d'ambition. Il restait sur une deuxième partie de saison de l'année dernière plutôt positive. Il retrouvait l'Europe. Ça commence super mal puisqu'ils se font taper par Vidéoton. Ils devaient peut-être prendre Paul Bayce, mauvais choix. Ils l'ont pas pris, alors que c'était faisable hein, et que lui serait venu. Ironie du sort, il arrive 6 mois après, au moment où Gourvenec se fait dégager, ce qui est quand même fort. Ça a probablement poussé l'entraîneur à revoir sa défense qu'il a un peu bricolée au début, qui s'est terminée avec un tout lalant Jovanovic absolument bidon, passoire complet, et ça lui a coûté cher. La blessure de certains joueurs, bon d'abord des recrues quand même, de Préville 9 millions, Cafu 7 millions.
Ah mais il y a un gros recrutement cet été. Hein.
Les deux, ça marche pas. Les deux, ça marche pas.
Bah, ça a marché juste ce match.
Ça a pas marché. Et on se retrouve on s'aperçoit 6 mois après que Depréville sur un côté, finalement, c'est mieux. Ça marche beaucoup mieux. Alors que quand il jouait neuf, il en mettait pas une.
Alors c'est mieux sur un match.
Attendons.
Effectivement, et de toute façon, c'est le but de ce jeu, c'est il faut attendre. Mais dans le choc psychologique, il y a des changements de joueurs. Donc on découvre, on découvre pas que Cafu, bah là c'est compliqué en l'occurrence. Et pourtant là, je pense qu'on serait beaucoup à s'être trompé parce que bon, encore une fois, quand je l'avais vu avec le Shakhtar, il m'avait fait plutôt bonne impression. Ouais, bref, carrément. En tout cas, il ne s'intègre pas. Il y a Malcolm, le capricieux. Parce que dès le début, ça a été un problème. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que les supporters bordelais vont dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu nous saoules à dire que c'est un problème, alors que c'est notre meilleur joueur ?» C'est vrai, mais je dis pas le contraire. Évidemment que c'est le meilleur joueur. Mais si le meilleur joueur, effectivement, t'as ton meilleur joueur...
Il te plombe d'autres choses.
Mais le problème, c'est que ton club est dans la panade la plus totale, même si t'as ton meilleur joueur, c'est quelque part, il y a quand même un problème.
Ah, puis ton meilleur, je dis pas que c'est le cas, parce qu'on n'est pas dans le vestiaire, mais ton meilleur joueur sur le terrain peut à un moment donné te plomber 3, 4, 5 autres joueurs dans le vestiaire et
mal est plus grand que ce que ça t'apporte. Les caprices de je veux partir, on prolonge. Et là, c'est depuis que le mercato d'hiver a ouvert, c'est tous les jours il dit qu'il veut s'en aller. Ça l'a pas empêché de faire un bon match avant hier. Est-ce que tout ça serait arrivé avec un directeur sportif, et c'est toujours pareil, on en revient toujours à la force de l'autorité de l'institution? Bah non, parce que Ramé, je pense, est pas compétent pour le rôle qu'il exerce. Peut-être il aurait pu un petit peu calmer tout ça. Résultat, Gourvennec se barre, et là d'un coup on a l'impression qu'on découvre une nouvelle équipe, donc de Préville à gauche, Laborde qui a quand même été blessé sur la première partie de saison. J'ai jamais réellement compris la gestion de ce joueur. Moi, à chaque fois que je le vois jouer, je le trouve bon.
Ils l'ont prolongé à un prix énorme. Ensuite, ils en voulaient plus.
Ouais.
Et ils se blessent au moment où ils en veulent plus.
Voilà. Et là, lui, il serait pas contre un départ. En tout cas, ça bouge du côté de son agent. Le 31, c'est après-demain, donc je sais pas s'il
va falloir faire vite. Ouais.
Mais il y a des offres en Angleterre pour qu'il s'en aille. Je suis pas sûr que Bordeaux lâche parce qu'il y a pas de neuf. Mais Bordeaux est également sur un neuf. D'ici le 31, il y a peut-être un autre avant-centre qui va arriver. Comment lui, il va prendre, comment Laborde va prendre l'arrivée de ce nouveau neuf? Parce qu'il y en a un autre attaquant, mais qui est blessé, Mendy.
C'est là, ce sera intéressant, justement, de voir comment,
D'un coup, on se met à découvrir des mecs, on se demande où ils étaient, là, tu vois. On va découvrir Koundé, qu'on va peut-être d'un coup se dire c'est un bon joueur. Bon, trop tôt évidemment pour le dire. Meite qui est au milieu là,
a été recruté cet hiver, découverte,
voilà, il arrive. Donc en fait, Gourvennec, on a l'impression que ça va plus du tout être l'équipe qu'il a dirigée pendant 6 mois, et on se dit, et c'est à ça que je veux revenir, c'est le nouvel entraîneur ou pas le responsable des bons résultats? Ou est-ce que c'est la gestion du club?
Pierre, tu vas répondre
avec une direction sportive claire, nette.
Alors, Daniel,
qui prend les joueurs quand il faut les prendre, qui recadre
justement,
qui recadre ceux qu'il faut recadrer,
qui met dans de bonnes dispositions un coach.
Voilà, messieurs, après,
j'exonère absolument pas Gourvennec de ses responsabilités, parce que c'est lui qui a fait jouer les joueurs qui ne sont plus là.
C'est fini en Ligue 2 avec donc la défaite du leader Aurélien Tiercin.
Oui, surprise ici à Delon, 1-0 pour le Football Club de Lorient, le club entraîné par Mickaël Landreau, but de Steven Moreira à la 81e minute. Reims qui a manqué un penalty qui n'était pas dans son assiette ce soir, mais Reims toujours leader, large leader, avec 10 points d'avance sur le Nîmes Olympique. Et derrière, Lorient fait la bonne opération, et effectivement en
recollant. Il y a Loïc Ferry qui est très très énervé, tu sais pourquoi?
Non, ils sont pas énervés, il est très content.
Il était un peu énervé.
Il était énervé,
je sais pas s'il s'est passé des choses dans le match.
Je pense qu'il s'est calmé parce que le président de Reims est arrivé.
Il est énervé.
Bref, on verra, on va se renseigner.
Il y a eu une petite bagarre aussi à un moment donné à la fin.
Tu sais, Aurélien, il s'est passé des choses dans le match qui pourraient susciter sa colère.
La colère de qui?
De Loïc Ferry.
Non, pas à ma connaissance, pas sur le terrain. L'arbitrage était plutôt en faveur du FC Lorient, à part effectivement une grosse sortie de Carasso sur Gaëtan Courté qui aurait dû mériter un pénalty pour Lorient.
Peut-être que
d'ici le 31, il a pas assez vendu de mecs là.
Ce que je vous propose, c'est de pas parler sans savoir. À la limite, Aurélien va te renseigner et puis tu nous tiens au courant, évidemment, dès que t'en sais un peu plus.
Il a même fait signer des gens aujourd'hui, Jonathan Delaplace de Caen qui est arrivé à Lorient.
Très bien. Victoire 1-0 de Lorient donc à Reims. Merci Aurélien. Victoire de Bourg-en-Bresse 77-75 face à Gravelines-Dunkerque. C'était le match de proie du soir. Alors, Daniel nous a fait le tableau bordelais.
C'est pas de la Ligue 2, ça, Bourg 77.
Non, exactement, c'est de la proie. Pierre, qu'est-ce que tu veux dire à Daniel? Qu'est-ce que ça traduit le tableau qu'il a dépeint? Est-ce que les dirigeants ont raison d'avoir procédé à ce choc psychologique?
Déjà, j'ai noté une première phrase tout au début.
Je pense pas que Daniel se trompe, parce que je pense que Daniel le sait, mais qu'il a voulu, pas l'occulter, mais en tout cas ne pas en parler. Je ne pense pas que les joueurs, à un moment donné, quand il y a un changement de coach, se réveillent parce qu'ils se sentent responsables, en tout cas pour le cas dont on parle là. Hein. Il y a peut-être d'autres cas où c'est différent, mais parce qu'ils se sont sentis responsables de l'éviction de Gorenec. J'ai du mal à y croire.
Non, mais
c'était
hypothèse.
Je pense plutôt qu'il y a un nouveau coach qui arrive, que certains pensent avoir eu la peau du coach dont ils ne voulaient plus.
Alors il faut préciser là-dessus. Tu fais bien de le dire. J'ai oublié de le préciser. La grande majorité soutenait Gorenec. Mais certains,
sauf un petit noyau, je pense.
Exactement. Et dans ce noyau, il y avait le gros pépin.
Apparemment.
Il y avait le gros pépin.
Exactement.
Malcolm.
Voilà, le meilleur joueur.
Et ça s'est vu ou pas, la déclaration de Malcolm aujourd'hui, genre oui, bah maintenant on joue, hein, et c'est quand même mieux quand on joue.
Non, mais c'est tellement visible. sauf que Gourvennec a effectivement, comme tu l'as dit, sûrement des responsabilités,
mais
parce qu'un coach
sûr.
En a toujours dans des
bah
échecs,
oui.
Mais que en même temps les joueurs en ont tout le temps aussi des responsabilités, et que je pense que à Bordeaux il va falloir surtout attendre un petit peu avant de se prononcer. Alors certes, le match qu'ils ont fait était parfait, voilà, très très beau, pas parfait parce que ça n'existe pas, mais en tout cas très très bon, et on est content pour les Bordelais. On espère même que ça va durer, mais moi j'attends de voir si Poyet, sur la durée, va pouvoir gérer ces énergumènes là quand ils vont pas jouer, quand il va y avoir une défaite et qu'on va essayer de leur expliquer, de leur rentrer dedans, que c'est de leur faute parce qu'ils ont pas fait ci, ils ont pas fait ça, et que les mecs vont pas vouloir comprendre que c'est de leur faute, comme ça a été fait maintes fois en première partie de saison par Jocelyn Gourvennec. Si on rajoute de la concurrence à certains, voir comment ça va être géré, effectivement ça va pas être facile. Bref, voir si effectivement, et là Daniel met le point sur, pour moi, ce qui est essentiel, si derrière l'entraîneur, il y a une autorité au club, il y a une hiérarchie qui est respectée dans ce club-là, et auquel cas, si c'est le cas, Bordeaux s'en sortira, et parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Si oui, c'est pas le cas, ils rencontreront une nouvelle fois les mêmes problèmes.
Bien sûr, il faut un travail en profondeur, sinon c'est qu'un écran de fumée.
C'est en tout cas ce qui me paraît de l'extérieur le plus visible.
Voyons ce qu'en pense Christophe, supporter de Bordeaux qui nous rejoint au 32-16. Salut Christophe.
Oui, bonsoir l'équipe, ça va?
Bah ça va, et toi?
Bonsoir Christophe.
Ça va, merci.
Bon alors, Poyet, c'est quoi? C'est juste un écran de fumée, un choc psychologique sur un ou deux matchs, ou ça peut être une vraie solution?
Ah bon, pour juger déjà, faut du temps. On va pas se mentir. Je crois que Bordeaux a gagné aussi un match là pendant qu'il y avait l'entraîneur intérimaire juste avant. Il y avait déjà cette mise en confiance qui est sympathique. Ça fait, on a gagné deux matchs à l'extérieur. On gagne contre Lyon. Bon, il y a aussi des faits de jeu. On a fait une bonne première mi-temps. Je pense que le public a dû bien pousser également. Lyon a dû nous prendre un peu de haut, donc voilà, c'est le système Poyet, ça lâche des joueurs, les joueurs veulent plaire à l'entraîneur aussi, c'est normal, c'est un premier match, on fait confiance, tout le monde veut plaire. Donc moi je suis d'accord plutôt sur le fait qu'il faut attendre pour juger, voir comment on va gérer les hommes, voir comment on va gérer les sorties la nuit dès que ça se met à gagner un peu, les problèmes dans les vestiaires et si l'équipe va vraiment adhérer au projet. Il faut attendre un peu. Je pense qu'il y a deux matchs qui viennent où déjà on peut réellement juger s'ils sont capables de gagner contre Strasbourg, contre Amiens. À ce moment-là, on pourra dire qu'il y a quelque chose qui commence. Et avant de préparer le match contre Marseille.
Et toi, en tant que supporter, quand tu les as vus faire les efforts, pour certains, parce que c'était pas uniquement la même équipe, mais quand tu les as vus faire les efforts face à Lyon, se dépouiller après le changement d'entraîneur, est-ce que t'en as voulu aux joueurs en te disant bah, pourquoi vous n'êtes pas bougé avant?
Non, je pense qu'il y a quand même, oui, un petit effet psychologique. Oui, j'en veux un peu aux joueurs, parce qu'à Bordeaux, c'est toujours comme ça. On a toujours tendance à perdre contre les petites équipes, à faire des beaux matchs contre les grosses équipes quand on nous attend un petit peu moins. Ne demandez pas pourquoi. Bordeaux est spécialiste pour ça.
Bah, donc, motivation. Hein.
Mais ça, c'est pas normal, Christophe. Ça devrait.
Ouais, ça fait des années. Franchement, ça fait des années. Quand vous jugez Bordeaux, à chaque fois qu'on les attend, quand ils vont tomber contre des promus, des choses comme ça, on n'est pas capable de prendre des points. Et on gagne quand on nous attend pas, contre Paris, contre Marseille, contre Lyon.
Moi, Christophe, je veux pas être pessimiste avec ton club, hein, mais quand on a eu Stéphane Martin dans Team Duga la semaine dernière, j'ai du mal à me dire que tous les problèmes sont réglés et que tout va aller mieux à Bordeaux.
Ah non.
Quand il explique pourquoi il a choisi Poyet, bon, tu demandes un peu où est la stratégie, où est le plan.
Oui, c'est quoi son explication?
Bah, il a beaucoup voyagé, donc il pourra s'adapter à un vestiaire où il y a plusieurs courants. Tu vois, les Brésiliens, les Français,
etc. On a toujours aimé les Sud-Américains à Bordeaux aussi, il faut le savoir.
Voilà, hein, il est capable d'apporter une force de caractère, une grinta. Et puis, alors, j'avais vu passer, ça, il nous l'avait pas dit, mais on avait vu passer qu'il s'entendait très bien avec les jeunes parce que son fils était professionnel. Donc, il avait les codes et tout, il arriverait bien à s'adapter.
Le fils de qui?
De Poyet.
Ouais. Il a dit ça, Martin?
Donc, j'avais vu ça comme explication aussi. Ouais.
Ah, effectivement.
Donc, bon, après, Christophe, ça va peut-être fonctionner.
Ah, peut-être.
Est-ce que tu crois qu'il ouvrira un compte dans la banque de Martin?
Peut-être.
Mais il est encore banqui?
Non. Il a arrêté, je pense.
Eh, j'ai dit une connerie, hein, mais pas
oui,
corrigé.
Si, c'est Ludogorets pour Cafu.
Ludogorets. C'était PSG Ludogorets.
Pas Shakhtar.
Pas Shakhtar.
Ah, oui, mais j'ai pas voulu te reprendre en direct.
Bah, si, t'aurais dû, c'est t'aurais gentil. On peut tous se tromper. Tu sais.
Christophe, merci d'être venu au 32-16 en tout cas. Bonne fin de saison avec Bordeaux.
Allez Bordeaux, bonne soirée, au revoir.
Les questions de l'after dans un instant. On va parler de la bataille pour la 5e place, mais également de Metz.
Ah, pas de celle pour la 2.
Non, c'est pas rigolo, on en parle tout le temps.
Ah ouais.
Allez, à tout de suite.
RMC, le super football show. L'after foot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot dans l'after. On va passer à nos questions de l'after pour balayer le reste de l'actu du week-end. Juste avant, tweet de Cocorico sur le hashtag RMC Live. Mais que fait sur votre plateau Pierre Ducrot? Le mercato se finit dans 2 jours. Il n'a pas des joueurs à transférer, il n'a pas autre chose à faire.
Mais alors je vais t'apprendre quelque chose. Quand t'es un bon agent, tu fais pas ça le 30 et le 31. T'anticipes et tu fais ça avant. C'est jamais bon le 31 comme ça. Alors je vais te dire la vérité, j'ai 2 associés et c'est eux qui bossent là.
Quand même, voilà. Tu sais, s'il y a un panic buying, s'il y a un Marseille qui arrive comme pour Mitroglou. Et là, il arrive pour toi.
S'il y a un truc comme Mitroglou à faire, moi je veux pas être là-dedans, je m'en vais très très loin moi. Non, je veux pas qu'on me tienne responsable de ça 6 mois après. Non.
Oh là là. Bon. Non mais vraiment il y a des affaires là, il y a des trucs qui se trament.
Ouais, ça arrive, ça arrive.
Ça arrive oui, mais
le 31 comme ça.
Non mais là t'as pas des mecs à...
Ah non franchement honnêtement j'ai fait ce que j'avais à faire le 28, voilà, pour être très précis.
C'est bon. Et si c'est quoi, et si ton dernier coup l'a fait nous rêver.
C'était mais je t'en ai parlé je crois non.
Mais le problème c'est que je ne sais pas si je peux parler d'un truc que tu me dis en off, donc
un international voilà.
Comme l'histoire m'a plu, tu peux dire
c'est un grec australien avec qui j'ai fini ma carrière à Kavala qui était très jeune à l'époque.
Tu en avais parlé de ça.
Non, ça l'a
qui a joué au PAOK, qui a joué en Grèce avant de partir en Chine. Donc club chinois.
C'est toi qui l'as mis en Chine.
Ouais, on a fait la Chine et là on l'a ramené à Chypre parce qu'il veut revenir en Europe, parce qu'il veut jouer, parce que ça, comme pour la plupart des joueurs qui vont en Chine, ça se passe pas souvent très bien.
D'accord.
Pourquoi ça se passe pas?
Tu prends beaucoup d'argent, mais c'est compliqué. Hein, t'as des gros effectifs et voilà, il y a beaucoup de joueurs. Tu tombes dans une quand t'es pas des top players, tu tombes dans une masse de joueurs où c'est pas facile de s'en sortir, où la culture du travail n'est pas la même. Enfin les entraînements, le football n'est pas du tout le même. Honnêtement, moi il m'a expliqué des choses là, voilà, où tu travailles pas du tout tactiquement pareil. C'est pas du tout le même foot. Quoi. Mmh. Et ouais. C'est compliqué de s'en sortir.
Et pour un agent, le steak il est meilleur quand tu fais le transfert vers la Chine ou quand tu le ramènes à Chypre.
Ah, les deux, tu négocies la sortie aussi.
Ah, fois deux, bien sûr.
Ah, j'adore. Faut que je sois agent un jour.
Bah, rentre dans le cabinet du Croc.
Non, je le fais au début. J'ai toujours dit, je vais jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar.
Ah oui.
Parce que c'est là qu'on a pris nos premières mallettes avec Gilbert. Après, j'arrête et après, je me lance.
Tu deviens agent après.
Bah, avec Pierre.
Pourquoi t'es pas joueur de poker professionnel?
Mais parce que c'est pas le niveau.
Tu pourras pas tout faire. Tu pourras pas faire le RMC Poker Show.
Ah non, ouais, si
l'after.
Je t'assure que si j'avais le niveau, je me serais lancé depuis longtemps, Poker. En course de chevaux, j'ai encore moins le niveau.
Et par contre, fais gaffe, réfléchis bien, parce que agent, tu peux plus parier, tu peux plus les jeux, tu paries jamais.
Ah non, moi je parie jamais.
Bon allez, les questions de l'after, on y va. Metz, la fameuse Grenatada, la remontada messine. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est possible?
Mis à part que ce nom, je le trouve ridicule, mais.
Oui. Est-ce que vous y croyez? Bref. Metz 18 points, 6 points de retard sur le barragiste, sur 3, et la dynamique du moment qui est complètement messine.
Je vais dire un truc, je veux pas que tu te sentes vexé.
Tu t'en fous?
Mais ouais, je m'en fous.
Très bien, pas de problème.
Non,
je suis pas vexé, ça m'étonne pas.
Je sais pas, je m'en fous.
Ah si, j'ai quand même une histoire.
Alors, moi, je réponds à ta question, parce que
tu nous as fait décryptage du choc psychologique. Non, mais là, il y a un choc psychologique.
C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais depuis qu'il a récupéré, et là, on a un peu de...
Il a remis les joueurs à l'endroit. Il leur a proposé un plan de jeu en plus différent, pressing haut, etc.
Et là, on a du temps pour juger, en plus, là.
Il a transformé Nolan Roux.
Non, mais la vérité.
Après, si t'aimes pas Metz.
Non, mais arrête, je dis n'importe quoi. Mais la vérité, c'est qu'en fait, c'est pas que je m'en fous. La vérité, c'est que je m'y suis pas intéressé.
Bon, bah, très bien.
Donc, je peux pas, tu vois, je peux pas parler de trucs comme ça. Après, Roux, je vois qu'il met des buts. Je vois qu'il a mis plus de buts cette année que Cristiano Ronaldo.
Putain.
J'ai vu sur une petite chaîne cryptée le petit montage Ronaldo. Tu l'as pas vu ça?
Si,
tu l'as vu, ouais.
Non, mais attends. Tu sais que ce que je viens de dire, qui est une blague, qui fait rigoler tout le monde. Tu sais que ce genre de stats à la con, quand on les fait dans l'autre sens.
C'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'on les fasse dans l'autre sens et qu'il y en a qui accordent de l'importance. Parce que quand je le dis
dans
comme ça,
sens, c'est-à-dire
évidemment que
Ronaldo a marqué plus de buts que Ronaldo,
a mis plus de buts que Messi.
Un mec de la radio espagnole qui dise il y a un mec qui a marqué plus que Ronaldo.
Non. Quand en France on dit ouais un tel, on a Monaco l'année dernière meilleure attaque d'Europe. C'est une comparaison complètement stupide. Meilleure attaque d'Europe par rapport aux autres clubs, stupide. Ou un tel meilleur buteur européen et tout, mais il n'est pas dans le même championnat que l'autre.
Bah mais regarde, les contextes sont pas les mêmes. Tout à l'heure, quand je fais mon avis tranché, je compare Cavani à d'autres buteurs européens aussi. On le fait tous de temps en temps.
Non mais là, on était sur Ronaldo.
Non, mais Ronaldo, on est d'accord.
Non mais dire que Cavani est bon, mais moi, je suis pas en train d'aller dire de le comparer.
Non, mais on le compare des fois avec d'autres buteurs, forcément pour le jauger un petit peu.
Oui, mais parce que, c'est un attaquant de Ligue des Champions, il aspire au plus haut niveau, tu peux regarder.
Après, si
Cavani en Ligue des Champions, jamais il y arrive réellement, il restera en dessous de tous ceux qui y sont arrivés. Ouais. Évidemment.
Sur Metz,
Attends un avis quand même.
Oui, enfin, en tout cas, ça semble possible.
En tout cas, ils sont contents d'avoir marqué des buts parce que moi, je l'avais découvert à Brest en Ligue 2. À la fin des années 2000, j'étais persuadé que ça deviendrait un bon attaquant derrière. Il a jamais réussi. Donc, si en vieillissant, il arrive
pas au bon
endroit,
il était pas au bon endroit à chaque fois.
Il s'est toujours planté. Ouais. Alors après, mauvaise entente avec l'entraîneur, il a tout le temps tout foiré derrière.
Allez, vas-y, Pierre.
Non, ben Metz, juste pour dire que moi, ça me semble possible. Ils sont à 6 points aujourd'hui avec le nombre de matchs qui restent. T'as des équipes devant qui sont pas en pleine confiance non plus. Ils se sont payés en tout cas le luxe de pouvoir y croire.
Olivier Létang, tu voulais en parler dans les questions de l'after. Est-ce qu'il est capable de réveiller le Stade Rennais, de secouer tout le monde? Parce qu'il a dit aujourd'hui, il faut changer les mentalités, il faut changer les cultures. Après un peu plus de 2 mois, mon analyse est à peu près la même que quand je suis arrivé. C'est un club qui a beaucoup d'atouts, mais je suis arrivé dans un club où il y a du confort à tous les niveaux, trop de confort de vivre. On est bien, on est tranquille, finalement rien n'est important, gagner, perdu, rien n'est important. Et moi, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter.
C'est quelque chose qui transpire de ce club depuis des années, quand on est même à l'extérieur. Et pour en avoir aussi parlé avec des joueurs qui sont passés par le Stade Rennais, quand tu arrives là-bas, il a raison de dire qu'il y a du confort partout, parce que c'est un club formidable. On n'en a pas toujours conscience, mais pour moi déjà, c'est une des plus belles rénovations de stade en France. J'adore ce stade qui est fermé à l'anglaise, etc. T'as un centre d'entraînement qui est très fonctionnel et qui est parfait pour travailler. Mais tous ceux qui passent là-bas te disent qu'il y a une espèce de une chape de plomb au-dessus du club qui est là et qui te dit quoi qu'il se passe, c'est pas grave.
Du moment qu'on reste en Ligue 1, quand on chloroforme sur la trompe, c'est comme dans les films avant là.
Ouais, voilà. Du moment qu'on reste en Ligue 1, tout va bien.
Tu t'endors. Et
sauf qu'à un moment donné, Rennes pour moi est un club qui doit avoir d'autres ambitions et je suis content de voir que, parce que je l'ai pas entendu souvent par un des dirigeants rennais, j'ai pas entendu souvent bouger les choses.
T'as vu qu'ils ont eu avant?
Bah ouais, mais c'est bien. Alors j'espère que ta question, c'est est-ce qu'il sera capable. En tout cas, il en est conscient. J'espère qu'il en sera capable pour le Stade Rennais avant tout, pour lui aussi, mais pour le Stade Rennais parce que ça fera du bien à ce club-là. Et c'est un club qui a des moyens en plus, donc qui peut jouer un vrai rôle dans le paysage du foot français.
Les temps, ça t'intéresse?
Ils s'en foutent, Daniel. Non, ils s'en foutent.
je vais voir ce qui va se passer avec Rennes, mais le nombre de fois.
On s'est dit c'est bon,
ça va redémarrer, ça redémarre pas.
Mais c'était plus avec des entraîneurs qu'avec des présidents, là. Pourquoi pas lui laisser?
Les présidents. Moi, je me souviens d'interview de Saint-Cernin dans France Foot, où il avait monté son club, Hermine, machin. Il voulait remettre la Bretagne au cœur du projet. Et les valeurs.
C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est pas mal, ça. C'est pas mal.
J'ai une dernière question.
De Saint-Sernin, venait d'où?
J'ai une dernière question.
De Saint-Sernin, il bossait dans le groupe Pinot. En plus,
j'ai ma question sur la lutte pour la 5e place.
Il était supporter du PSG.
Ouais. Non mais parce qu'on parle de la lutte pour le podium, mais la lutte pour la 5e place, je suis sûr qu'elle va être intéressante entre Nantes et Nice. Question boule de cristal. Je me tourne vers Pierre parce que Daniel déteste ces questions-là.
Et ben, toi, j'aime bien Nice. Boule de cristal.
Bah oui, qui va finir 5e? Entre Nantes et Nice, ou un autre, pourquoi pas.
Tu sais très bien que ta question est
compliquée. Oui.
En même temps, si t'étais mouillé à dire qu'ils allaient remonter, tu peux continuer.
Nice, quand tu dis que Nice va remonter dans le classement, c'est quelque chose que tu peux dire en t'appuyant sur différents critères, le travail, le sérieux,
ils vont faire top 5,
la stabilité de ce club, etc. Dire entre deux places, ils vont finir 5e ou 6e, c'est compliqué, quoi. Tu vois, ça dépend de. Tu veux vraiment que je te réponde?
Oui.
Eh ben Nice devant Nantes.
Ah, allez. Voilà, jusqu'au bout comme ça.
Voilà, mais bon, je sens sans aucun argument, c'est complètement.
Nantes restait sur une sale série là.
la dynamique, on pensait qu'elle était un peu cassée.
Alors, niveau timing, j'avais tablé sur le fait que t'es pas d'avis, hein, et que tu veuilles pas répondre.
Non, et puis si tu veux répondre, faut que tu te mouilles comme moi, quoi. À un moment donné, moi, je me suis mouillé.
Si on peut répondre vite.
Non, non, bah, c'est bon, pas de problème. J'en ai parlé dans mon dernier papier sur le blog, enfin, l'avant-dernier, pas de problème.
Et ben, on ira bien ça sur rmcsport.fr.
Exactement.
Les drôles de dames. Répondre, j'ai pas de blog, moi. Faut que je réponde ici.
Bien sûr, tu pourrais faire le blog, le blog Pierre Ducrot.
J'ai pas le temps.
Dans un instant, les drôles de dames, on commencera par Fred Hermel. Et oui, car Leganés peut donner la leçon à certains clubs français. Il va nous détailler tout ça dans une seconde. Restez avec nous dans l'after.
On parle pas de Nacho.
Ah non, pas cette fois, c'est bon. Oh. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot.